Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, fines bouches rouges du terroir et amateurs de combales du samedi soir, bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'onde curieuse version automne 2024 avec ses bogues qui piquent et qui éclatent, et c'est tant mieux. Des châtaignes dans la face, oui, mais la bouche ouverte. On parle des castagnades ce midi, vous l'aurez compris. Que nous réserve ce millésime 2024, le 25e qui se tisse une fois de plus avec 11 villages, non pas 25 mais 11, c'est déjà pas mal, qui ont tricoté autant d'événements riches en couleurs et en saveurs d'automne. Eh bien on le saura dans 10 minutes environ avec nos invités, Elisa Jaffrenou qui est chargée de mission culture et patrimoine culturel au parc naturel régional des Monts d'Ardèche, et Olivier Dahinger du restaurant L'Arbre à Pain Saint-Étienne de Boulogne, qui est l'un des 27 restaurateur qui a mis sa créativité au service des pourrettes merles ou sardones. Et puis on entendra aussi la voix d'André Salam, qui est l'artiste qui a œuvré au fil rouge artistique et a conçu l'œuvre L'Antre. Mais d'abord, on se penche sur l'actu locale et l'agenda.
Et pour commencer cet agenda, un petit point météo. Donc Météo France a placé le département de l'Ardèche en vigilance rouge pour pluie et inondations ainsi que crues. Et de nombreuses routes sont fermées sur l'ensemble du département. On vous appelle à la plus grande prudence, notamment dans vos déplacements. Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur cet épisode météorologique, suivez les informations sur les sites vigicru.gouv.fr et ou météofrance.com. Et pour toute demande de renseignements supplémentaires, une cellule d'information au public vient d'être activée et elle est joignable au, sortez votre stylo, 09 70 80 90 40.
Ouais, soyez prudents. Alors une proposition ce soir pour vous sécher éventuellement, si vous avez quand même bravé la pluie, une soirée boom pour danser. Et se sécher donc avec le pas de danse, c'est ce soir de 18h30 à 22h30 au pas de côté à Mercuée. Et oui, les soirées boom danse reprennent de ce côté de Mercuée. Et ce, tous les troisièmes jeudis du mois. Alors on danse, on remue, on s'amuse et on sèche donc. Le pas de côté vous concocte une petite playlist aux oignons, voire une playlist aux petits oignons, c'est comme vous voulez. Mais la vôtre est bienvenue, et c'est comme à la maison, hein, quand on pousse les meubles pour danser, une petite lumière qui va bien, on monte le son et on se lâche. C'est ce soir au pas de côté de 18h30 à 22h30.
Demain, vendredi, à la salle des fêtes de Chassier, Claire d'Étoile et Brin de Jardin proposent dans le cadre de la fête de la science une conférence sur les aurores boréales avec Jean Lilenstein, un astronome et planétologue de Grenoble. Donc pour en savoir plus et découvrir le mécanisme des aurores boréales, c'est demain à Chassier, de 20h30 à 22h.
Ouais, les aurores boréales. À Burzé, samedi soir, une bien chouette soirée qui se trame à l'Ardèche Social Club. Ça commence dès 18h30 avec la clôture du vernissage de l'exposition d'Ernest Tinon en musique. À 20h30, c'est Astrud Gastric contre Norganic, c'est-à-dire Electro et Didgeridoo. Les deux artistes qui vont vous faire découvrir leur électro-cuisine, un petit mélange surprenant et captivant qui saura éveiller vos sens. Et à 22h30, la soirée se poursuit avec Positronic pour terminer donc en beauté sur un voyage électro assez rythmé. C'est dans ce nouveau lieu donc qu'est le social l'Ardèche Social Club, pardon, qui est à Burzé, mais c'est pour ça c'est nouveau, j'ai pas encore l'habitude. L'entrée est libre pour les adhérents, l'adhésion annuelle est de 5€, et puis vous trouverez toutes les infos sur le petit Facebook qui va bien.
Et ce samedi de 10h30 à midi, venez participer au Café Santé de la Maison de Vallée. Ça se déroule à la médiathèque de... Oula, pardon...
De Montpezat.
De Montpezat, merci. Il y avait trop de villages dans la même...
Oui, oui.
Donc c'est une conférence animée par des orthophonistes qui permettra de mieux comprendre les troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, l'autisme ou la dyslexie et la dyspraxie.
Dont on parle beaucoup en ce moment, donc c'est vrai que c'est très très intéressant de faire ce type de conférence.
Donc oui, donc n'hésitez pas à venir accompagner de vos enfants ou petits-enfants, car il y aura un espace jeu surveillé qui sera prévu pour les enfants. Donc c'est samedi à la médiathèque de Montpezat à 10h30 et l'entrée est libre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la médiathèque.
Je fais à nouveau un pas de côté à Mercué, toujours pour annoncer aussi demain, donc on rétropédale dans l'agenda, demain vendredi, pour annoncer le marché d'automne avec le concert de Mikat aussi. Ça a lieu comme chaque année de 17h30 à 21h au pas de côté, donc pour découvrir des produits locaux, puis des super savoir-faire de producteurs, d'artisans ardéchois. Il y a de tout, à la fois de la poterie, des créations de tissus, mais aussi évidemment à manger, parce que c'est ce qui nous intéresse d'abord. De la charcut, des biscuits, du miel, tout ça, des bières artisanales. Sur place aussi, il y a à boire et à manger, notamment des sandwichs porcaises. Oui. Porcaise avec du porc, mais il y a aussi du végétarien, et tout ça sous l'influence, donc je le disais, du bon son du groupe Mikat, qui va ambiancer toute la soirée avec des reprises pop-rock électro. Et puis, il y aura Fréquence 7 là-bas. Venez nous voir, venez nous soutenir, venez adhérer, on en a plus besoin que jamais. On vous en parle depuis lundi sur cette antenne. Vous venez d'entendre d'ailleurs à 11h un direct depuis la radio BLV, depuis Valence, pour vous parler de cette situation, la situation catastrophique dans laquelle place 770 radios associatives et locales si c'était adopté. Donc place le projet de loi de finances 2025 présenté par le gouvernement qui annonce une réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique qu'on appelle le FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Il fait vivre les radios locales non commerciales puisque en moyenne il représente 40% de leur budget. Et pour nous, Fréquence 7, c'est 50% de notre budget. Donc on essaie pour demain de vous mettre à disposition justement à Mercué au pas de côté des courriers type à envoyer à nos députés pour leur demander d'amender cette partie de la loi de finances ou en tout cas d'interpeller le ministre à ce sujet. On va essayer aussi de mettre sur notre site internet et sur notre page Facebook ce courrier pour que vous disiez, vous, en tant qu'auditrice, auditeur ou bénévole d'association, combien cette radio, comme toutes les radios d'ailleurs locales et associatives, sont importantes pour vous. Voilà, c'est la fin de cet agenda. Ça donne envie de mettre quelques châtaignes. Mais on va plutôt se passer un petit peu de punk en occitan, s'il vous plaît, car comme les castagnades et les langues traditionnelles se réinventent elles aussi. Low Domai de Enloch, tiré de l'album Tempora, que c'est bon du punk en occitan. Et ouais, pour introduire justement notre sujet, Castagnade, alors le lien paraît un petit peu éloigné, mais non, parce qu'il s'agit de traditions qui se réinventent. On se retrouve, fine bouche rouge du terroir et amateur de combales du samedi soir, pour entamer la partie magazine de cette onde curieuse qui parle des castagnades. Alors, que nous réserve ce millésime 2024? Le 25e, qui se tisse une fois de plus avec 11 villages qui ont tricoté autant d'événements riches en couleurs et saveurs. On va le savoir avec nos invités. Elisa Jaffrenoux, bonjour.
Bonjour.
Tu es chargée de mission culture et patrimoine culturel au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Et avec Olivier Dinger, du restaurant L'Arbre à Pain à Saint-Étienne-de-Boulogne, bonjour.
Bonjour.
Tu es l'un des 27 restaurateurs qui a mis ta créativité au service des pourrettes et autres merles ou sardones. Et puis, devait être avec nous André Salam, l'artiste qui a œuvré au fil rouge artistique de cette édition et qui a conçu notamment l'œuvre L'Antre. Mais en ce moment même, il est en train de décoper la fontolière qui déborde. Donc, il sera avec nous d'une autre manière et de loin. On commence donc pour cette 25e édition des Castagnades avec une petite question que je me posais hier soir, et ça tombe bien parce que j'entendais une émission sur la tradition. On écoute juste un extrait.
La tradition telle qu'on la définit aujourd'hui, et puis telle aussi qu'elle est présentée par les personnes qui se veulent des défenseurs de la tradition, ils ne sont pas dupes en fait du fait que elle nécessite des adaptations au risque de disparaître. On réfléchissait avec mon collègue Laurent Le Gall à des traditions qui disparaissaient ou qui avaient disparu. Mmh. On pensait par exemple à la tradition des Catherinettes.
Et oui, mais contrairement aux Catherinettes, les Castagnades, elles sont bien vivantes. On entendait Manaïk Thomas, c'était au micro de Questions du soir sur France Culture hier soir, donc spécial sur la tradition justement qui se réinvente. Alors Elisa.
Je crois que c'est un très bel extrait parce qu'effectivement les Castagnades, c'est vraiment ce qu'on appelle un patrimoine culturel immatériel, donc un patrimoine vivant qui est effectivement hérité du passé, donc qui se transmet de génération en génération, mais en même temps qui se réinvente en continu. Les Castagnades, c'est ça, c'est à la fois effectivement des rôties de châtaigne à partager, ça rappelle effectivement les veillées d'hier, et en même temps c'est donc des castagniculteurs qui viennent vendre leurs fruits frais, mais également qui les transforment et qui partagent ça avec des habitants, des visiteurs, à l'occasion donc de ces fameuses castagnades. Donc on est complètement effectivement dans cette idée-là de la réinvention et d'un patrimoine vivant qui est effectivement fait écho à celui d'hier, mais en même temps qui est un petit peu différent. Et c'est ça qu'on a envie de montrer aux visiteurs sur les castagnades, cette inventivité dont on fait preuve aussi aujourd'hui, en même temps des choses effectivement qui rappellent hier. Et on peut du coup découvrir par des animations, par des défigurements, par des rencontres avec ceux qui travaillent la châtaigne, et puis effectivement une invitation à la création artistique qui va aussi elle révéler d'autres patrimoines vivants du territoire, et cette année en particulier des savoir-faire textiles.
Mmh. Beaucoup de choses là qui viennent d'être dites, une présentation un petit peu effectivement générale de ces castagnades. Sur cet événement en particulier, alors ce qui ne bouge pas, c'est qu'il y a toujours 11 villages, 11 événements qui se déroulent d'ailleurs là, déjà depuis un petit moment, et qui vont avoir lieu jusque
au 10 novembre.
Mais il y a aussi une attention, voilà, renouvelée, notamment sur l'impact que les castagnades ont sur le territoire.
Tout à fait, ça nous intéressait à l'occasion de cette 25e édition de mesurer effectivement à la fois la satisfaction des visiteurs lorsqu'ils viennent sur les castagnades, mais également l'impact des castagnades pour la filière et pour tous les acteurs qui œuvrent pour ces fêtes. 12 ans après, on a souhaité du coup en partenariat toujours avec l'Agence de développement touristique de l'Ardèche réaliser du coup une grande enquête qui a démarré effectivement le week-end dernier à l'occasion de la première castagnade à Jaujac.
précisément. Et donc, on va à la rencontre des visiteurs pour voir effectivement qu'est-ce qui fait qu'ils viennent sur une castagnade. Est-ce qu'ils viennent sur plusieurs castagnades? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de venir aussi ici? Ils attendent quoi de ces fêtes? Également, est-ce qu'ils achètent des châtaignes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher précisément en termes de produits? Et donc, on va réaliser ça sur les 5 week-ends donc, de ces castagnades, mais également auprès des exposants et des restaurateurs, puisque ce qui nous intéresse, c'est vrai que c'est aussi les castagnades comme élément fort de soutien à la filière. Et donc ça, c'est pour le mesurer, il faut aussi avoir des données chiffrées plus précises. Peut-être redire quand même aux auditeurs que les castagnades, on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 35 000 visiteurs sur ces 11 fêtes. Donc c'est pas rien. Quand on compare effectivement à des gros événements, récemment il y avait le salon de la gastronomie à Valence, on est autour d'une cinquantaine de visiteurs. En tout cas, c'était les chiffres de l'année passée. Voilà, donc nous, c'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus réparti sur le territoire, mais c'est aussi ça qu'on a besoin de mesurer aujourd'hui plus précisément pour mesurer justement l'ampleur et les retombées de ces fêtes.
Et quand on parlait aussi d'impact, c'est aussi l'impact environnemental de l'événement qui est aussi repensé.
Tout à fait. Donc les castagnades, ça nous intéressait également de voir dans quelle mesure on pouvait aller vers des éco-événements de manière beaucoup plus structurée que jusqu'à présent. Les organisateurs sont très sensibles à ces enjeux-là. Ils ont déjà fait des efforts en matière de tri des déchets. Mais la question effectivement d'un éco-événement, ça va plus loin. C'est déjà ça, bien sûr, mais c'est aussi la question du transport qui n'est pas forcément évidente sur nos territoires. C'est aussi les questions sociales, sociétales qu'il faut traiter. Du coup, on a proposé en partenariat avec d'autres acteurs engagés sur ces questions-là au niveau du département une formation à destination donc des bénévoles des fêtes. Il faut rappeler que les castagnades, c'est plus de 500 bénévoles, donc il faut effectivement embarquer tout ce collectif-là. Et donc, on a réalisé une formation au mois d'avril pour essayer de voir de quelle manière on pouvait progresser dans les années qui viennent. Et donc, dès cette année, il y a des petites choses qui se mettent en place, notamment la mise en place d'un dispositif de covoiturage pour chaque événement, des attentions particulières, notamment celle aussi de créer une œuvre cette année qui, elle-même, ne génère pas de déchets et soit fabriquée notamment à partir aussi de rebuts. Donc voilà, cette attention, on la retrouve à plusieurs niveaux et on espère bien pouvoir aussi monter en puissance au gré des années prochaines.
Eh bien, puisque Elisa, tu as commencé à parler de cette œuvre, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fil rouge artistique qui justement mêle, tu parlais de tradition et de ce que ça veut dire, le patrimoine culturel qui est toujours en mouvement, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose de figé. Comment justement cette année vous avez fait dialoguer deux patrimoines culturels?
C'est vraiment ça qui était très intéressant parce que le territoire des Monts d'Ardèche est connu pour effectivement les terrasses et la châtaigne. Il y a effectivement un patrimoine plus méconnu qu'on a tendance à oublier, qui est ce patrimoine industriel. Rappelez qu'il y a 700 sites industriels sur le territoire du parc, donc 400 moulinages avec donc une histoire textile remarquable, mais qui est à la fois discrète dans le paysage et qui est encore plus discrète effectivement aujourd'hui pour les habitants, puisqu'il reste qu'une dizaine d'entreprises textiles. Et donc il s'agissait vraiment pour nous aussi là de montrer qu'il s'agit d'un patrimoine vivant, d'un patrimoine culturel immatériel qui est détenu dans les entreprises, qui se transmet, puisque mouliner le fil de soie, les techniques ont évolué bien sûr, les machines aussi, mais on continue, le fil de soie continue à se casser, il faut continuer à le réparer, et ce savoir-faire des mouliniers a effectivement s'est élargi à la file, enfin existait aussi au niveau de la filature, s'est élargi au tissage, au guipage, à la passementerie, à plein de savoir-faire textiles qui résident sur notre territoire et qui se font en plus écho aujourd'hui à des savoir-faire qui sont apportés notamment par les artisans d'art également, par les ressourceries aussi qui font du recyclage textile. Donc on a tout un univers textile de savoir-faire qui sont tout à fait encore aujourd'hui à l'ordre du jour et qui nous intéressait vraiment de révéler aux visiteurs de la même manière que la châtaigne faire écho à ses savoir-faire textiles.
Et alors, comment vous avez révélé justement ce patrimoine vivant, ce patrimoine textile, via notamment cette œuvre, c'est ça ?
Exactement, donc on a passé commande à un artiste donc, qui s'appelle André Salam, qui est basé à Chirol, en plus dans un moulinage, donc ce qui nous intéressait beaucoup. Et avec lui, on a rencontré les industriels, les entreprises textiles principales de notre territoire, pour voir dans quelle mesure ils pouvaient nous remettre justement des matériaux textiles qu'ils fabriquaient, des rebuts. Et c'est ça qui a été la source d'inspiration de l'artiste. Et donc de cette œuvre L'Antre, sachant qu'on a voulu aussi, en plus de cette rencontre avec l'œuvre, permettre aux visiteurs de mettre la main à la pâte. Et donc on a proposé sur les castagnades, dans le cadre du programme que vous pourrez découvrir sur le site castagnade.fr, aussi des ateliers, donc notamment broderie d'art, brodé, avec Cécile Garniabou, un fil rouge justement sur des cartes postales anciennes de castanéiculture, ou encore découvrir des ateliers de tressage avec Sarah Reville qui est les passementières, ou encore travailler avec le citrade et le trimaran à Priva par exemple ce week-end, sur du recyclage textile.
Donc le patrimoine culturel, c'est aussi faire ensemble, vivre ensemble, créer ensemble.
Tout à fait.
Pour le reste de l'œuvre, eh bien, même si André Salam n'est pas là avec nous, Castagnetienne, il va l'être quand même grâce au témoignage recueilli par Vincent Guigon de RCF qui signe le premier Central Park, la nouvelle émission des trois radios complices Info RC, RCF et Fréquence 7 sur l'actualité du parc naturel régional et qui sera à écouter dans son intégralité sur Fréquence 7 lundi 21 octobre à 18h45. Mais donc on écoute André Salam parler de son œuvre.
Je ne suis pas du tout un artiste textile. C'est ça qui m'a plu, c'est que là, j'avais des matériaux qui remplaçaient des pinceaux ou une gamme de couleurs que j'aurais jamais utilisées. Et ces matériaux m'ont forcé à le penser, ces matériaux, justement, en termes plastiques, une utilisation sculpturale. Donc, je ne voulais pas avoir une approche couturière de ces éléments-là, mais au contraire, vraiment très de matériel, en fait, matériel brut. J'ai fréquenté longtemps des castagnades vraiment en tant que touriste. Et l'année dernière, particulièrement, quand j'ai appris la commande, avec un œil différent, de comprendre à quoi ça ressemblait et qu'est-ce qu'on pouvait amener d'extérieur ou avec ce fil rouge textile. Et du coup, c'est le village de tentes qui m'a inspiré en disant je vais créer une tente foraine parmi les tentes foraines. Il y a volontairement une différence entre l'aspect extérieur qui est bicolore et l'aspect intérieur qui est beaucoup plus organique. C'est ce que j'ai recherché avec ces matériaux. Ils sont tous plus ou moins industriels. En tout cas, ils sont tous passés par un processus industriel. Mais j'ai voulu leur redonner quelque chose d'une organicité. C'est pour ça qu'il y a ce mélange de textures qui invite pas mal à toucher. Hein. J'ai pensé à un espace multisensoriel. Dans ma pratique antérieure, ça s'appelait des espaces nosellènes. C'est des espaces thérapeutiques dans lesquels on mobilise plusieurs sens à viser plutôt de relaxation. Et que j'avais un peu ça en tête dans le fait que ces matériaux, ils aient déjà des odeurs, ils aient des textures. Il manquait plus beaucoup de sens. Alors il y a peut-être le goût qui sera plutôt à l'extérieur sur le marché plutôt qu'à l'intérieur. Mais le reste des sens, j'espère s'en solliciter. Et pour ça, en effet, dans chaque panneau, il y a des lumières. Et ça invite à aller chercher où est la lumière et du coup, aller encore plus au contact des matériaux.
On écoutait André Salam donc, parler de son œuvre, L'Antre. Et puis, s'agissant du dernier sens hein, qu'il évoquait, le goût, on va en parler dans un instant avec Olivier Dinger du restaurant L'Arbre à Pain, l'un des 27 restaurateurs de ces castagnades. Mais d'abord, pourquoi, André Salam le dit, il n'est pas du tout dans le textile. Alors pourquoi être allé chercher cet artiste ?
Parce qu'on voulait mettre en scène les savoir-faire textiles sur les castagnades et donc on a besoin effectivement de gens qui ont une âme de scénographe, qui sont plasticiens aussi, pour effectivement imaginer à projeter une œuvre qui, on le rappelle, est montée le matin même et démontée le soir. Donc effectivement, il faut cette sensibilité-là à la présence de l'œuvre dans l'espace. Et Benjamin nous l'avait démontré. On avait déjà eu l'occasion de travailler avec lui autour du partage des eaux. Et cet été, pour l'exposition Planète Mer à la Maison du Parc, et on savait qu'il avait tout à fait ses compétences. sans oublier celle qui est la plus importante pour moi en tant que chargée de mission sur ce projet-là, c'est effectivement une attention à ce qu'est un projet de territoire, à la rencontre humaine, à la fois évidemment avec les salariés des entreprises textiles, mais aussi avec les bénévoles sur les castagnades, et il a tout à fait ce savoir-être aussi qui est précieux dans ce type de projet.
Donc on sera au contact de ce fil rouge, alors d'une part avec l'œuvre sur chacune des castagnades ?
Oui, tout à fait.
Sur chacune des castagnades, et puis avoir donc sur le programme des castagnades éventuellement des ateliers.
Oui. Tout à fait.
Venons-en maintenant au goût, parce que la châtaigne c'est quand même un petit peu ça, au goût avec donc Olivier Dallinger du restaurant L'Arbre à Pain, Saint-Étienne de Boulogne. Merci encore d'être là, Olivier.
Merci à vous.
Alors, déjà, pourquoi avoir accepté d'être dans cette ébullition des castagnades ? Pourquoi proposer spécifiquement des menus castagnades ? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans ?
J'aurais envie de dire que la châtaigne, c'est vraiment un des produits phares du territoire de l'Ardèche. Moi, je ne suis pas ardéchois, d'adoption depuis maintenant 4 ans. Et je me rends compte qu'effectivement, s'il y a de la châtaigne dans un menu, dans un plat, dans un, ça, voilà, les Ardéchois apprécient. Et les gens qui viennent d'ailleurs et qui mangent en Ardèche, ben, sont ravis d'en trouver. Cette occasion de présenter de la châtaigne, voilà, il y en a... à l'entrée, au plat, au dessert, c'est un peu un challenge, et puis c'est le fruit de saison, c'est le fruit, nous quand on arrive, on n'est pas exactement sur les villages où il y a on est juste à côté de Vaisseau, où il y a une des castagnades, mais on est vraiment dans les châtaigneraies, et l'arrivée au village se fait sous les arbres, on voit les arbres, les bogues, on roule sur les marrons, c'est vraiment sur les châtaignes, pardon. Et c'est vraiment c'est l'environnement à cette époque de l'année, il y a des châtaignes partout.
Et est-ce que vous aviez déjà travaillé la châtaigne ailleurs, comme par exemple en Espagne, à Barcelone ?
Alors voilà, moi j'étais 20 ans à Barcelone, et en fait. À Barcelone, il y a la castagnada. Et la castagnada, donc c'est bah, la langue, le catalan et l'occitan, ça a vraiment des racines communes, c'est vraiment proche, quoi. On comprend de l'occitan en écoutant, en ayant le catalan. Et donc, c'est vraiment la fête. C'est beaucoup plus. J'étais surpris en revenant en France de l'importance d'Halloween qu'avait pu prendre ces dernières années. Mais en Espagne, c'est la castagnada, c'est pas Halloween.
C'est ça, qui a lieu la nuit du 31 octobre au 1er novembre.
Exactement, exactement. Et donc, en Catalogne, traditionnellement, il y a les gens, on va dire, il y a dans l'arrière-pays catalan, il y a quelques montagnes, il y a les Pyrénées, il y a les contreforts des Pyrénées, il y a Olot, et c'est des... moyenne montagne, et les gens des moyennes montagnes descendent à l'époque des châtaignes pour vendre leurs châtaignes dans les villes. Et donc, un peu comme moi j'ai grandi à Paris, on pouvait acheter des marrons chauds, et ben il y a des petites cabanes qui se montent un petit peu dans toute la ville à Barcelone, dans tous les villages, dans toutes les villes, où les gens reviennent tous les ans vendre leurs châtaignes. Et ils commencent à cette époque-là.
Donc vous aviez déjà travaillé la châtaigne à ce moment-là ?
Ah, oui, un petit peu, oui. Un petit peu.
Et là, alors ce qui m'intéresse de savoir, c'est en tant que restaurateur, comment on fait ? Est-ce qu'on est tenté justement, on parlait de tradition, alors est-ce qu'on est tenté par les recettes traditionnelles, celles qui fonctionnent à chaque fois, ou j'imagine aussi un petit peu d'être tenté d'inventer là-dedans, de trouver des manières différentes de faire apprécier la châtaigne ? Comment on se situe en tant que restaurateur ?
Alors, moi n'étant pas ardéchois, je ne maîtrise pas les recettes traditionnelles de la châtaigne. Et je trouve que c'est un exercice un petit peu difficile de présenter des plats à des gens dont la grand-mère sûrement le préparait mieux que moi. Donc je ne m'amuse pas à ce genre de choses. Et puis c'est vrai que le métissage ou le mélanger un petit peu des façons de faire, je trouve ça un petit peu plus pas plus rigolo, mais bon, c'est ma façon de faire à moi, quoi.
Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous?
Alors là, c'est vraiment osé cette année, on va dire, parce que c'est un plat végétarien. Mmh. Pas tout le menu. L'entrée, c'est un pâté en croûte cochon châtaigne avec des cèpes. Mmh. Avec une petite salade.
Mais du cochon végétarien.
Exactement, bien sûr. Le plat, ce sont des légumes rôtis avec un mélange d'épices, une sauce au fromage blanc. Et dans les légumes, il y a des châtaignes rôties. Mmh. Et en dessert, c'est un... Nous, on l'appelle le Mont-Gerbier. C'est le dessert que je ne peux pas enlever de la carte. J'ai l'impression à chaque fois, il y a des gens qui me le redemandent. Donc c'est une coupe de fromage frais, la confiture de châtaigne, des meringues à la française et de la mousse de lait.
Mmh. Il est bientôt midi 20, donc c'est... ça nous met en appétit. Et Elisa, justement, il me semble que vous travaillez aussi avec les restaurateurs pour proposer... justement qu'ils s'initient, qu'ils essaient d'autres recettes à base de châtaigne.
Tout à fait, on avait fait déjà ça il y a quelques temps, même je pense plus de 10 ans, et ça avait très bien fonctionné, puisque ça avait permis effectivement à des restaurateurs de sortir un petit peu des recettes classiques, et on a pu retrouver l'année dernière comme ça un dessert qui avait été créé à l'occasion de cette formation, et donc on a proposé aux 27 restaurateurs de faire une formation cette année avec un chef pour justement prendre ce temps, ce petit pas de côté. Alors certains, effectivement, comme Olivier, ont cette envie, cette habitude d'essayer d'expérimenter de nouvelles recettes. C'est pas forcément donné à tout le monde. Et des fois, ça permet effectivement d'aller plus loin. Donc on va faire ça pendant l'hiver, pendant que la saison sera un petit peu plus calme pour les restaurateurs.
Avant de terminer cette émission, juste un mot sur comment s'annonce justement cette production de châtaigne 2024.
Alors, cette saison 2024 s'annonce plutôt bien. Comme certains l'ont pu peut-être le constater, elle est un petit peu en retard. On a effectivement une quinzaine de jours de retard par rapport à l'année précédente. On revient du coup plutôt sur une périodicité classique, on va dire. Du coup, le temps de cette année a été plutôt bon pour la châtaigne, tant au niveau de la pollinisation qu'au niveau de l'eau. Il y a eu effectivement un peu de stress hydrique au mois d'août, pour certains châtaigniers quand même. Et sur les hauteurs, le mois de septembre, il y a eu un petit peu de temps frais qui a rafraîchi, et on espère que du coup, ceux-là ne seront pas pénalisés par ces premières gelées. Donc plutôt une très belle récolte attendue, en espérant effectivement que le temps va permettre de continuer, parce que l'humidité des derniers jours n'est pas forcément toujours propice à la châtaigne, mais voilà, on espère qu'on sera du coup aux attendus de 5000 tonnes à peu près de châtaigne pour cette année.
Ce qui représente à peu près 50% de la production française de châtaigne.
Tout à fait.
Pour l'Ardèche. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus autour de cette table pour nous parler des castagnades 2024, la 25e édition des castagnades. Il vous reste, quant à vous, auditrices, auditeurs, 8 possibilités d'aller voir, d'aller manger, d'aller vibrer. Bon, c'était un peu l'année dernière, la vibration. Mmh. Mais en tout cas, de participer à ces castagnades, vous trouverez tout le programme sur castagnade@fr. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette onde curieuse consacrée aux castagnades et puis aux châtaignes qu'on a envie de mettre dans le projet de loi de finances 2025. Restez à l'écoute de Fréquence 7, justement, cette loi de finances, ce projet de loi de finances 2025. On en parle dans quelques instants dans Parole de citoyennes et citoyens. C'est à 13h. Et puis, bien sûr, elles parleront aussi d'autres sujets. À 15h, eh bien, c'est le Telex. C'est le moyen le plus sûr et le moins cher, puisque c'est gratuit d'annoncer vos événements. Vous avez 45 secondes pour laisser un message sur notre répondeur. Toutes vos annonces passent à 9h et 15h. Et pour ça, un seul numéro de téléphone, le 04 75 93 30 25. À 16h, c'est la rediffusion de Paroles de citoyennes et citoyens. À 17h, la rediff cette fois-ci de L'Onde curieuse. Et puis à 19h, c'est Éclectrique. Voilà, vous pouvez réécouter, télécharger, même si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, toutes ces émissions sur notre site internet fréquence7.net. Et puis on se revoit pour une prochaine Onde curieuse lundi, où on se fera l'écho de l'écho des Cévennes. Quant à demain, bah, c'est cinéma avec Cinémascope. Merci beaucoup Clara.
Merci Sophie.
Et au revoir, en effet, salut, et oui, et merci Sylvain, la réalisation de cette émission. Ciao.